Sacré, es-tu là? Un podcast qui met de la lumière dans votre vie. Le sacré est présent sous mille formes dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas le définir, ni même le comprendre. Il désigne ce qui est inaccessible. Ce podcast explore tous les chemins qui y conduisent. Je vais à la rencontre de personnes qui ont eu une expérience du sacré, qui se manifeste sous une multitude de formes, rites, mythes, symboles, hommes, animaux, plantes. Je vais les interroger sur ce moment de bascule où tout a changé, intérieurement et extérieurement. Bonjour, nous sommes en présence de Joël Andriano Merisoa à la Biennale de Venise. C'est un artiste que j'ai rencontré pour la première fois au Bénin, à la Fondation Zinsou. Dans son exposition, je fus transportée dans un univers brutalement poétique. Le monde qui l'entoure permet à ses sens de révéler le beau, le fragile, le sacré. Son œuvre écrite, peinte, sculptée, sonore, s'imprime des manifestations du réel, joue avec nos émotions, nos désirs, pour nous perdre dans un ailleurs encore à définir. Sa présence ici à Venise, pour la 58e Biennale, au sein du pavillon Madagascar, est une aventure artistique inédite pour son pays, mais aussi une aventure humaine, amicale, exceptionnelle. Grâce à un formidable réseau, Joël a pu proposer une installation qui est une des plus brillantes de la Biennale. Bonjour Joël.
Bonjour Natacha.
Quelle fut ta première rencontre avec le sacré et quel type de rapport entretiens-tu aujourd'hui avec lui ?
Je ne vais pas répondre à la question de manière au singulier. Je préfère y répondre de manière plurielle. Et presque comme tu l'as annoncé, je joue des émotions, je joue des matérialités des émotions. Et à partir de là, je préfère dire qu'aujourd'hui, j'aime bien parler des sacrés. Ce sont des expériences, ce sont des moments de vie, des moments de rencontre, des moments de joie ou des moments de désespoir. Donc ce sont un peu des allers-retours comme ça sur lesquels je travaille, c'est comme ça aussi que je vis en quelque sorte. Donc ces rencontres sacrées ou les rencontres avec le sacré se passent un peu à chaque fois de manière diverse dans différentes géographies, dans différents contextes. Peut-être tout de suite parler du Bénin, parce que pour moi le Bénin est vraiment une rencontre avec le sacré, une rencontre déjà avec une personne, une rencontre avec un pays. Donc je pense que ma rencontre avec Marie-Cécile Zinsou c'est quasi carrément de l'ordre du sacré. Je pense qu'on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, nous étions jeunes, ignares et peut-être un peu téméraires aussi. On a décidé qu'on allait faire des choses, mais sans savoir quand ni comment. Et j'aime bien peut-être cette définition du sacré qui est un peu le mystère, qui est l'inconnu. J'aime beaucoup cette définition-là. On ne savait pas. Et on a mis 10 ans pour faire ce projet ensemble. Dans un pays que je ne connaissais pas du tout, dans un contexte qui est agréable à la fin, mais qui n'était pas non plus totalement confortable, qui encore une fois était de l'ordre de l'inconnu. J'ai juste posé une condition en disant, si je fais un projet au Bénin, donnez-moi une carte blanche. Et ma réponse à ça, c'était de travailler avec tout ce qui existe au Bénin, tant au niveau matériel, tant au niveau des émotions, même au niveau des personnes. Et ces rencontres avec toutes ces personnes étaient des rencontres sacrées où c'était encore une fois l'inconnu. Et j'aime beaucoup cette histoire de l'inconnu. Et c'est pour ça que je suis arrivé à placer, par exemple, dans cette exposition, un jardin, d'un seul coup dans la villa à Javon, parce que c'est à la fois, il y avait effectivement le mythe de ce personnage dans cette villa, il fallait remettre en place cette mémoire, mais comment aussi, on va dire, remettre cette mémoire dans le matériel, et c'était extrêmement compliqué. Et du coup, je suis parti dans le jardin, qui est, encore une fois, pour moi, est un inconnu, parce que je n'ai pas la main verte, comme on le dit. Et c'est vrai que la nature n'est pas forcément mon sujet de prédilection. C'est pour ça aussi que j'ai fait appel à Jeanne Moreau pour chanter dans la fondation, en sachant que la décision de mettre Jeanne Moreau dans l'exposition, mis à part mon fanatisme fou, c'est que j'ai appris la mort de Jeanne Moreau quand j'étais à Cotonou. Donc encore une fois, voilà, on va dire mes instants sacrés sont des instants un peu comme ça. Comme je peux donner aussi un autre exemple, pour moi Istanbul, j'ai eu des rencontres un peu sacrées à Istanbul. Il y a une vingtaine d'années, j'y vais pour la première fois pour visiter une amie qui était une étudiante en architecture. Et là, je fais une rencontre avec un être assez formidable et assez rare qui s'appelle Alain Bourdon. Alors c'est toujours assez drôle parce qu'Alain Bourdon est le frère de Didier Bourdon en même temps. Donc c'est assez amusant parce que la première fois quand je l'ai vu, je me disais, ben je connaissais le visage, mais ce n'était pas la même personne. Didier m'a donné une opportunité qui était très belle de fabriquer une nuit. C'est peut-être pour ça que je suis toujours aussi fasciné par la nuit. Et donc on a monté un projet qui s'intitulait « Une nuit avec moi ». Et dans cette nuit, j'ai fait une rencontre avec une femme formidable qui s'appelle Rabia Chapa, qui était une des premières galeristes d'Istanbul, qui a montré Morley, qui a montré Buren dans les années 70. Comme d'un seul coup, j'ai eu la permission de faire une performance Topkapi, on va dire pour une nuit, avec un repas assez formidable, totalement déconstruit. Là aussi, cette rencontre un peu inconnue avec l'histoire est assez extraordinaire. J'ai fait une performance dans une boîte de nuit qui s'appelait Babylone. Donc, et tout ça à travers le temps. C'est le temps de l'inconnu, l'espace de l'inconnu. Et moi, c'est un peu ma définition. Ce n'est pas une définition. Je ne pense pas qu'on soit à la recherche d'une définition du sacré. Mais en tous les cas, ces rencontres, c'est un peu ça. Ce sont des rendez-vous surprises. Ce sont des rendez-vous avec l'inconnu. C'est le mystère aussi. Il y a quelque chose aussi peut-être du non-dit quelque part. Parce que quand on s'avance dans un labyrinthe noir et qu'on ne dit rien ou en tous les cas, on ne prévient pas, c'est certainement un peu sacré.
I Have Forgotten the Night est le titre de ton installation pour le pavillon de Madagascar. Première présence au sein de la prestigieuse Biennale de Venise, le spectateur est plongé dans les plis d'une cascade noire de papier feuilleté. Le titre est-il une manière d'appeler son opposé la lumière, de mettre à jour une présence lumineuse sur les forces créatives de Madagascar et plus largement du continent africain?
La question est particulièrement identitaire. Et encore une fois, pour répondre de manière, on va dire, générale, pour moi, l'identité, elle est multiple. Donc, je pense que la réponse du oui et du non qui se confrontent marche très très bien dedans. Pour développer un peu plus le titre, totalement à l'opposé de ce que l'on attend ou à l'opposé des envies, certainement, avec un peu de drame et avec un peu de mélancolie, c'est sûr. Mais je préfère raconter l'histoire, comment ce titre est arrivé, pour y mettre un peu plus de lumière, justement. Quand on m'a proposé quand on m'a invité, finalement, à porter mon pays à la Biennale de Venise pour la première fois, ma première réaction, suite à des réactions, on va dire, que ce soit mes commissaires, que ce soit mes amis, que ce soit des gens très proches, qui étaient tous à la recherche, justement, d'une matérialité, d'une forme malgache et qui m'obligeaient à parler de références malgaches, pour moi, la première réaction, c'était justement d'oublier. En gros, j'avais besoin d'oublier mon pays, justement, pour l'aimer un peu mieux. Oublier Madagascar pour voir, justement, un meilleur Madagascar. Oublier Madagascar pour mieux redessiner, justement, les contours et l'âme malgache. C'est ça, ma recherche et mes envies, en tous les cas, sont là. Et j'étais absolument sûr de placer l'histoire de l'oubli. Un oubli qui joue aussi avec l'absence, qui joue en même temps avec la présence. Un oubli qui joue toujours sur... j'aime beaucoup cette question du « où ?» De quoi parle-t-on ? À partir d'où ? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas de réponse, mais ceci n'est pas bien grave. Mais je voulais y apporter en même temps une temporalité particulière, une temporalité qui me fascine énormément, ou qui est la nuit. Et j'estime que dans la nuit, on devient fragile, il y a plus d'émotions en tous les cas. La lumière est là pour nous révéler la vérité, mais moi, la vérité ne m'intéresse peut-être pas. Je préfère rester, encore une fois, dans le mystère.
Tes expositions sont des traversées à l'intérieur de mondes, de théâtres, où les mots, la poésie, surgissent poétiquement et transportent tes gestes dans des explorations parfois inédites. À partir d'un souffle, d'un respire, le monde nous apparaît soudainement. Peux-tu nous dire si tu appartiens à la famille des démiurges ?
Je trouve que c'est toujours très Je trouve que c'est extrêmement important de parler du monde, déjà. C'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que dans mon travail, et en tant qu'artiste, on va dire à chaque rencontre, la première question reste toujours, quelle est ton inspiration? Et moi, je dis tout, et je dis le monde. Et c'est vrai qu'après, s'il faut définir, je prends un peu la métaphore d'une ville, qui peut être un peu une définition d'un monde aujourd'hui, d'une capitale. Parce que dans une capitale, ou dans ces concentrations urbaines, nous avons toujours des souffles, nous avons toujours des rires, nous avons toujours des pleurs, comme nous avons de l'architecture, comme nous avons des voitures, nous avons des corps, nous avons de la vie et nous avons de la mort. Donc c'est toujours quelque chose. Voilà, parce que nous avons tout ça. Et moi, tout ça m'inspire à chaque fois. Répondre avec un grand oui, c'est un peu prétentieux. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on manipule le monde, on manipule un peu l'histoire. Et j'ai presque envie de répondre que j'aimerais... J'ai pas une envie profonde de fabriquer un monde ou des mondes, ça non. Je pense qu'on va laisser le monde aussi vivre et on va aussi laisser aux êtres la liberté de s'exprimer en tous les cas et de faire des choses. Par contre, de fabriquer l'histoire ou fabriquer un moment d'histoire, ça oui, ça je suis sûr, certain, on va dire. Et je prends même l'histoire un peu en deux temps, on va dire l'histoire des histoires. Fabriquer l'histoire, ça reste peut-être écrire un peu un brin de l'histoire de l'art, ou en tous les cas de l'histoire de l'humanité, c'est assez beau. Je pense que l'art aussi est là pour ça, parce qu'on arrive à poser en tous les cas des choses matérielles, ou on arrive à poser des souvenirs. Parler de Madagascar tout à l'heure, si ce pavillon de Madagascar à Venise peut faire partir un peu de l'histoire, j'en serais en tous les cas assez fier. Quand je mets les histoires au pluriel et que nous sommes sur des histoires, là nous sommes des histoires un peu universelles. Où là on peut raconter des histoires d'amour, comme des histoires de séparation, ou comme il y a des histoires qui peuvent être un peu politiques de temps en temps, où les frontières deviennent problématiques, ou parce que je sais pas, même des histoires un peu économiques, des histoires sociales aussi. Oui, oui pour la fabrication de l'histoire, mais en même temps, laissons le monde vivre par lui-même, malgré tout. Après, on va peut-être essayer de retirer tout ça et on va revenir un peu plus à notre thématique, on va dire, de prédilection, qui est l'émotion et le désir. Il faut beaucoup de désir pour fabriquer un monde. Pas envie de dire que je suis rempli de désir, mais en tous les cas, j'ai beaucoup de désir pour partager, même si ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, entre des collaborations, entre même des inspirations, des références qui sont citées de temps en temps, d'où mon intérêt pour la littérature, parfois un peu trop malgache, parfois peut-être un peu trop française, ou aussi des émotions qui peuvent, par exemple, voilà, on va dire jouer sur quelques mélodies ou même de la musique de variété. Mais nous sommes toujours dans un système de désir et d'émotion. Moi, j'aime quand les chansons me font pleurer. J'aime m'émouvoir devant un film. Et il y a même des temporalités, des géographies qui sont intéressantes. Je pense que je ne suis pas le seul. Je trouve qu'un train est profondément mélancolique, comme un avion, on va dire, dans les airs. Moi, ça me rend triste. Pas dans le mauvais sens, mais ça fait appel à autre chose. Nous revenons sur notre thématique encore de l'inconnu, ou de l'entre-deux d'ailleurs, encore une fois. Ce sont des petites choses comme ça. C'est dur les émotions, c'est dur parce que c'est quelque chose qu'on a tous, mais réellement tous. Et d'ailleurs dans mon petit combat, peut-être pour revenir un peu plus sur l'Afrique, on ne parle jamais d'émotion par exemple en Afrique, on ne parle jamais de l'émotion africaine. Et moi c'est quelque chose, on va dire, que j'essaie de prôner. Et il y en a énormément, mais peut-être que la manière de l'exprimer n'est pas pareille. Et dans toute cette recherche, on va dire, émotionnelle, c'est la matérialité de cette émotion. Cette matérialité que je mets dans du papier, et je pense que c'est assez juste, on va dire, des feuilles de papier qui volent au vent, ou une feuille de papier qui où il y a des larmes qui tombent dessus, c'est un peu cliché, mais une feuille de papier humide, c'est aussi autre chose. Ou ma fascination pour les textiles, je pense, est aussi assez juste, parce que le textile raconte énormément de choses. Culturellement, on va dire, chaque culture a son textile. Et en même temps, nous avons tous une pièce de textile sur nous à tout moment, mis à part les nudistes peut-être, mais même eux sont toujours sur un rapport finalement de textile en étant contre le textile. Et moi, ça me fascine, ces deux brins de fil qui se croisent, et à partir de ce croisement, il y a une histoire qui se raconte. Après, on peut aller dans le motif, on peut aller dans la texture, on peut aller dans plein de choses. Cette recherche matérielle de l'émotion est un vrai exercice, un exercice en tous les cas mondial, voire universel, dans une temporalité infinie où le passé ne veut rien dire parce que moi-même je ne peux pas dire à partir de quand on peut parler textile. Dans le présent, je pense que nous sommes tout simplement remplis de textile, et comme le futur, je pense, se dessine entièrement autour du textile. Ce sont peut-être des prétentions, mais je pense qu'il y a une justesse quelque part. Ça aussi, c'est une dernière chose que je voulais... Voilà, j'insiste un peu dessus, on va dire, sur mes propos. C'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler uniquement pour moi, je pense que dans le rôle de l'artiste aujourd'hui, dans notre société, dans le monde, c'est pas tant de... C'est pas juste créer. Créer, c'est un acte. Je pense que nous créons tous. Ça, c'est pas très grave. Par contre, qu'un artiste pose la question, c'est très important, mais qu'un artiste aujourd'hui cherche la justesse des choses, de ses propos, de ses actes, et justement d'arriver à balancer ou à contrebalancer le monde et les formes et les propos, je pense que ça, effectivement, c'est une recherche. Ce sont des recherches que les artistes peuvent aujourd'hui mettre en place, ou en tous les cas, ça fait partie des recherches indispensables.
Que souhaiterais-tu rendre sacré ?
Le monde, déjà, c'est sûr. Et le monde, un peu à travers cette grande définition que j'ai exprimée tout à l'heure, ça veut dire que c'est tout et en même temps rien. Pour être un peu plus clair, je pense que je rêve d'un monde un peu inconnu. Ça aurait été beau que le monde devienne inconnu. Ça aurait été beau qu'on n'arrive pas aujourd'hui à définir le monde. Ce serait magnifique si on arrivait à définir le monde aujourd'hui sans aucune frontière. J'ai toujours cette image en tête, elle est réelle d'ailleurs. La map monde existe. Et en fait, ça fait rêver, moi ça me fait rêver. Quand il y a une map monde avec une lumière à l'intérieur et elle tourne sur elle-même, c'est quelque chose qui fait réellement rêver, en sachant pertinemment que c'est un monde qui n'existe quasiment plus.
Merci Joël. On se quitte sur les souffles de tes papiers froissés de la Biennale et qu'on entend par-dessus nos voix. Merci infiniment Joël.
Merci.
Retrouvez-moi un jeudi sur deux pour entendre parler des gens de tout horizon. J'ai imaginé ces podcasts en réaction contre les préjugés véhiculés par les sectaires, les douaniers des spécialités, les fragmentateurs de multiples scènes en France et partout ailleurs. Après avoir commenté ce podcast et laissé une appréciation, je vous invite à éteindre votre smartphone pour aller à la rencontre du sacré.